Continue avec le journal des Amériques et d'Haïti. Anne Verdaguet, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Jour J pour l'élection présidentielle aux États-Unis. On sera en direct avec l'une de nos envoyées spéciales aux États-Unis, Stéphanie Schuller, et dans le Wisconsin, où les bureaux de vote ont ouvert il y a quelques minutes. C'est l'un des états clés que chacun des deux candidats doit remporter pour gagner cette élection. On s'intéressera au vote des femmes de banlieue, un vote que Donald Trump tente de reconquérir. On sera en Caroline du Nord avec notre envoyée spéciale permanente Anne Corpé. Et puis on parlera avec Christophe Paget de la possible bataille légale que vont se livrer les deux candidats après ce scrutin. On fera également un tour d'horizon de ce que les autres pays du continent américain attendent de cette élection. Et on part tout de suite dans le Wisconsin, dans le nord des États-Unis. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, good morning.
Vous êtes avec Bertrand et Claire à Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin. Chez vous, il est 7h10 du matin et les bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a quelques minutes, Stéphanie.
Oui, et il y a pas mal de monde déjà devant ce bureau de vote au centre-ville où nous nous trouvons. Une cinquantaine de personnes, je dirais, dont les premières sont arrivées à 6h du matin. Tous partagent d'ailleurs le même sentiment d'urgence. C'est peut-être l'élection la plus importante de notre vie, me disait à l'instant une électrice afro-américaine. Heureusement, alors, il fait bien moins froid aujourd'hui que ces derniers jours. Et les électeurs qui vont devoir attendre aujourd'hui devant les bureaux de vote, tout en respectant les règles sanitaires, pourront au moins profiter du soleil et des températures bien plus clémentes que ces derniers jours.
Et le Wisconsin, qui est au centre de toutes les attentions cette année, il fait partie de ces États du Midwest que chacun des deux candidats, je le disais, doit remporter pour gagner cette course à la présidence.
Épreuve, s'il en faut, de l'importance du Wisconsin. Anne, Donald Trump a tenu l'un de ses tout derniers meetings ici, hier soir. C'était à Kenosha, une ville qui a connu, vous vous souvenez peut-être, des jours de manifestations, mais aussi d'émeutes violentes en août dernier, après qu'un policier blanc a tiré à 7 reprises dans le dos de l'afro-américain Jacob Blake. C'était la 4e visite du président en seulement 9 jours. Et cette frénésie ne doit rien au hasard. Les sondages donnent toujours son rival Joe Biden en tête, avec environ 5 points d'avance. Kenosha est devenu pour Donald Trump la pierre angulaire de son slogan de la loi et de l'ordre. Il se vante même d'avoir sauvé la ville, comme il dit. Et c'est un discours qui porte ici, non seulement à Kenosha, mais même dans les zones rurales bien plus reculées.
Alors Joe Biden est lui aussi venu dans le Wisconsin ces derniers jours, Stéphanie.
Oui, à 3 reprises, Anne, il avait d'ailleurs des messages très ciblés à passer aux Afro-Américains d'abord. Il ne représente que 4% de l'électorat du Wisconsin, mais quand on sait que Donald Trump a remporté cet État en 2016 avec seulement 23 000 voix d'avance et donc moins d'un point, on comprend que les électeurs noirs sont d'une importance cruciale pour Joe Biden. Au col bleu, ensuite, le Wisconsin a une importante industrie manufacturière qui a souffert, selon Joe Biden, des guerres commerciales lancées par Donald Trump, tout comme les producteurs laitiers. D'ailleurs, qui, avec leur production de fromage, font ici la fierté de tous. L'an dernier, 880 fermes laitières ont fait faillite, un record. Or, que c'est grâce au vote dans les zones rurales que Donald Trump a pu remporter le Wisconsin il y a 4 ans.
Ces élections, Stéphanie, se déroulent en pleine épidémie de coronavirus, il faut le rappeler.
Ouais, tout à fait. Et le Wisconsin est même l'un des États où la progression du virus est la plus virulente en ce moment. Le taux de positivité des tests réalisés a dépassé hier les 30%. Les gens commencent à avoir vraiment peur de sortir de chez eux, y compris certains électeurs républicains. Alors, dans ce contexte, sur les 3,5 millions d'électeurs inscrits dans le Wisconsin, plus de 2,5 millions ont déjà voté avant le jour J. Les démocrates veulent y voir un signe d'espoir. Ils estiment que ce sont surtout leurs électeurs qui ont demandé à voter par correspondance. Mais nous avons pu constater ces derniers jours aussi une forte mobilisation des comtés plus conservateurs où les gens ont voté en personne par anticipation. Alors tout à l'heure, je vous disais que dans le Wisconsin, Joe Biden menait la course en tête selon les tout derniers sondages, mais cette course pourrait tout aussi bien s'avérer plus serrée.
Merci beaucoup Stéphanie Schuller en direct de Milwaukee avec Bertrand Eclair pour les moyens techniques. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
La presse américaine est sur les starting blocks en ce jour d'élection.
Now it's up to you America. Maintenant tout dépend de toi Amérique. La phrase étant une de USA Today, elle sépare deux photos, celle de Joe Biden à gauche et celle de Donald Trump à droite. Sauf qu'à lire la presse, c'est plus compliqué. La nation attend avec anxiété alors que la course se termine dans la fureur, titre le New York Times. La nation attend. Cette fois, tout ne semble pas dépendre du vote des Américains. Déjà, avant et pendant ce vote, c'est dans les états clés où va se jouer la présidentielle que les gens ont subi le plus de désinformation sur le vote par la poste, explique le New York Times. Pour ce qui est de l'après, les campagnes de Trump et de Biden, les organisations pour le respect du droit de vote et les groupes conservateurs lèvent des fonds et déploient des armées d'avocats pour ce qui pourrait devenir une bataille légale, état par état, comté par comté, sur les bulletins qui seront finalement pris en compte, rapporte le journal. D'ailleurs, qui doit encore voter? C'est la question à $1 million que se pose le Washington Post, avec plus de 98 millions d'Américains qui ont déjà voté ce lundi, 70% du nombre total de votants d'il y a 4 ans. Le journal note que sur les états clés, l'Ohio, la Pennsylvanie et le Michigan, pour le moment, ils ont moins voté que ce à quoi l'on pouvait s'attendre cette année.
Alors comment les camps démocrates et républicains ont-ils vécu ces derniers jours de campagne, Christophe?
Le Boston Globe titre sur un curieux renversement des rôles. Malgré les sondages, les démocrates sont anxieux et les supporters de Trump confiants. Les démocrates anxieux à cause du souvenir de la défaite cuisante d'Hillary Clinton face à Trump en 2016 et des tentatives du président de jeter le doute sur les résultats. Alors que les partisans du Donald Trump, interrogés par le journal, sont certains de l'emporter, eux, haut la main. Et le Globe note que le président sortant s'est nourri de leur confiance, dansant sur la chanson YMCA à ses meetings. Alors que commente le journal, côté démocrate, dans ses derniers jours de campagne, personne ne semblait danser. Selon USA Today, Trump rattrape l'avance de Biden dans l'Arizona, la Caroline du Nord, le Nevada et la Pennsylvanie.
Et c'est bien pour cela que le Washington Post dit dans un éditorial partisan « Votez ».
Oui, votez comme si votre mode de vie en dépendait. Et c'est d'ailleurs le cas. Pour battre ce que le journal appelle les mensonges et le non-respect des lois de Trump, et pour se débarrasser de nos peurs que la violence politique prenne le contrôle de l'élection et de sa suite. Mais votez en faisant attention, conseille le Boston Globe, sous le titre « Espérez le meilleur, préparez-vous au pire ». Les responsables et les électeurs doivent être vigilants concernant les perturbations et les tentatives d'intimidation sur les lieux de vote et toute revendication de victoire prématurée. Dans le Chicago Tribune, des responsables syndicaux parlent déjà d'une éventuelle grève générale si ce mardi le vote libre juste et menacé. La une du journal résume assez bien toutes les peurs soulevées par cette élection, avec un autre article consacré à une rage politique qui serait en hausse dans tout le pays. Des membres des deux partis ne voient pas ceux d'en face comme simplement se trompant, mais comme étant dans l'erreur morale et même comme étant dangereux. Le Chicago Tribune note également que le gouverneur a mis la garde nationale de l'Illinois en état d'alerte en cas de troubles liés à cette élection. Histoire de respirer, le LA Times propose un article intitulé « Comment se relaxer pendant la semaine électorale » et éviter de passer son temps à lire des nouvelles apocalyptiques.
Restez avec nous, Christophe Paget. On part tout de suite en Caroline du Nord. Voilà, en ce jour de scrutin historique aux États-Unis, direction donc la Caroline du Nord et plus particulièrement la banlieue de Raleigh, à la rencontre des femmes de ces quartiers résidentiels dont le vote est particulièrement convoité. En 2016, 53% des femmes blanches avaient voté pour Donald Trump et contribué à sa victoire. Selon les sondages, ces mères de famille sont lassées des excès du président américain et pencheraient cette année pour Joe Biden. Mais dans la banlieue de Raleigh, rien n'est acquis. Le reportage de notre envoyé spécial permanente aux États-Unis, Anne Corpet.
L'humeur est plutôt souriante au quartier général du Parti démocrate de Fouquet Varin, devant les bureaux de vote de cette banlieue conservatrice de Raleigh qui ont ouvert dès le 15 octobre. Beth Bonnard assure avoir vu des signes encourageants pour son candidat.
Beaucoup de femmes sont venues me voir pour me dire si mon mari savait que j'avais voté pour un démocrate, il ne serait pas content du tout. Ou alors, je ne peux pas emporter un autocollant Biden à la maison parce que mon mari saurait que j'ai voté pour Biden. J'ai entendu la même histoire à plusieurs reprises.
Selon Christine Kelly, la pandémie de coronavirus est l'un des facteurs qui pourrait pousser les femmes, même conservatrices, à voter contre Donald Trump.
On devient de plus en plus démocrate parce que c'est là que nous voyons de la compassion pour les gens. On s'inquiète pour nos enfants, pour nos familles. Nous sommes celles qui, probablement plus que les hommes, avons vu la douleur provoquée par le Covid, avons vu les gens tomber malades. On s'inquiète, donc on doit agir et on a besoin de dirigeants qui se soucient de la population.
Depuis des semaines, Donald Trump courtise le vote des femmes de banlieue. Le président affirme qu'en cas de victoire de Joe Biden, ses quartiers résidentiels risquent d'être ravagés par des émeutiers. Mais il fait erreur avec ce message, estime Cassandra Flowers, militante afro-américaine au Parti démocrate.
Quand il parle des banlieues, il s'adresse aux femmes blanches et je pense que Trump fait une erreur. Des femmes noires, asiatiques, vivent dans les banlieues. Donc la composition des banlieues commence à changer. Et je pense qu'il oublie que quand on a entendu George Floyd implorer pour sa vie, appeler sa mère, cela a touché le cœur de toutes les femmes et de toutes les mères, qu'elles soient républicaines ou démocrates. Et cela a changé la donne.
And that's what shifted.
Madame,
Rachel surveille ses enfants qui jouent sur une pelouse devant la bibliothèque de Carrie, à quelques kilomètres de là. Mère au foyer, elle se sait privilégiée et n'apprécie pas du tout Donald Trump, mais votera quand même pour lui.
Est-ce que j'apprécie Donald Trump en tant que personne ? Non. Il est brutal avec les femmes, il dit beaucoup de choses stupides et je pense que c'est un narcissique. Mais ils le sont tous. Est-ce que je le trouve odieux ? Oui. Mais est-ce que je peux voter pour quelqu'un d'odieux et qui sait ce qu'il fait ? Oui, on n'a pas besoin de l'aimer en tant que personne pour dire qu'il fait du bon boulot. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix.
Devant le bureau de vote de Holly Spring, une candidate républicaine au Parlement local tente de convaincre les électeurs. Mais elle ne mentionne pas Donald Trump, ce qui agace profondément Lynn Ruck, qui tient, elle, le stand du Parti démocrate.
Ils ont beaucoup de pancartes Trump, mais ils ne restent pas à côté et ne les brandissent pas, pour la bonne raison qu'ils ne veulent pas être perçus comme des soutiens de Donald Trump, mais seulement comme des républicains conservateurs.
Mais la désaffection des femmes à l'égard de Donald Trump ne suffira pas forcément à les pousser vers Joe Biden. Elizabeth n'a envie de voter pour aucun des candidats.
Je ne sais pas si je veux encore d'un homme blanc de 70 ans au pouvoir, donc honnêtement, je ne sais pas si je vais voter.
L'incertitude pèse lourd sur le vote des indépendantes. Elles forment près d'un tiers de l'électorat féminin en Caroline du Nord. Anne Corpet dans la banlieue de Raleigh, en Caroline du Nord, RFI.
La suite de votre revue de presse, Christophe Paget. Les États-Unis votent et le monde les regarde avec anxiété et espoir. Selon le Washington Post, Christophe, vous avez parcouru la presse du reste du continent américain pour voir ce qu'elle pense de cette élection.
D'abord en Colombie, un beau coup du journal El Tiempo qui a interrogé les deux candidats américains. Donald Trump y affirme que la relation des États-Unis avec l'Amérique latine est forte et respectueuse, mais que si Joe Biden l'emporte, il trahira la Colombie. Joe Biden estime de son côté que Donald Trump a politisé et sapé la relation avec le pays. Au Venezuela, El Universal souligne l'importance du vote latino aux États-Unis, 13%, mais précise qu'il est très divisé. Chaque communauté a des aspirations différentes. Ultimas Noticias, proche du pouvoir, estime que le gouvernement vénézuélien, quel que soit le vainqueur, les sanctions et la politique d'agression continueront. Pour le journal, si Washington changeait de politique après les élections, ce serait plus vis-à-vis de l'opposition vénézuélienne que du gouvernement. Du côté du Mexique, El Universal s'intéresse au sort des migrants aux États-Unis et note que, contrairement à Donald Trump, Joe Biden a entre autres promis d'adopter de nouvelles politiques concernant les migrants détenus à la frontière et d'en terminer avec la séparation des familles. Nous verrons si les nouvelles générations sont elles aussi séduites par le discours xénophobe ou si elles font le pari de la diversité, de l'inclusion et du respect, écrit l'éditorialiste. Enfin, en Argentine, El Día préfère s'interroger sur la vie de Donald Trump s'il perdait la présidentielle. Un retour à la télévision, préparer la présidentielle de 2024 ou, plus radical, un départ du pays. Comme rappelle le journal, le président sortant l'a glissé il y a quelques semaines en décrivant l'humiliation que représenterait pour lui une défaite face à Joe Biden.
Merci beaucoup Christophe Paget pour cette revue de presse des Amériques. Cette élection présidentielle, on en parle bien sûr toute la journée sur RFI avec une spéciale à partir de 18h ce soir sur la Radio du Monde.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
L'actualité haïtienne, comme tous les mardis, on retrouve Godson Pierre d'Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Et tout d'abord, l'indignation en Haïti après la séquestration puis l'assassinat d'une jeune fille à Port-au-Prince. Les familles sont sous le choc.
Deux jours après la découverte du corps meurtri d'Evelyne Saint-Cerf, dimanche matin, dans une décharge à Delma 24 en périphérie de la capitale, les réactions d'indignation et les appels à l'action citoyenne ne cessent en effet d'affluer. Evelyne Saint-Cerf, 22 ans, venait juste de passer son bac lorsqu'elle a été kidnappée jeudi. Elle vivait avec sa grande sœur Inette de conditions très modestes depuis la mort de leur mère dans le tremblement de terre de janvier 2010. La colère monte principalement sur les réseaux sociaux où une insoutenable vidéo de témoignage de la sœur a circulé. Les autorités, dont le président Jovenel, ont vite réagi pour condamner cet acte et enjoindre la police de trouver les coupables, mais posts et tweets ne cessent de pointer du doigt leur irresponsabilité jugée chronique, assimilable selon certains à un mépris du droit de la vie. On assiste depuis quelque temps à une forte recrudescence des cas de kidnapping dans un contexte de violence armée où les gangs qui pullulent ne sont nullement inquiétés.
Autre sujet à la une, Godson, contre l'avis de bon nombre d'entités haïtiennes et de celui exprimé par les États-Unis, le président Jovenel Moïse met le cap vers une nouvelle constitution unilatéralement, dit Alter Presse.
Eh bien oui, le chef de l'État en effet a pointé vendredi une commission pour élaborer un projet de constitution qui sera soumis à un référendum. Il n'y a aucun consensus formel sur une telle démarche, ni au niveau politique, ni au niveau de la société civile. L'actuelle constitution interdit toute modification par voie référendaire. Pourquoi ce désir de changer la constitution ? Eh bien, le président répète que la constitution est la source de tous nos maux. Pour lui, un changement de la constitution permettrait de résoudre entre autres le problème de l'instabilité, mais de nombreux secteurs politiques et sociaux soupçonnent le chef de l'État de vouloir se défaire d'un corset.
Merci beaucoup Godson Pierre d'Alter Press. Très bonne journée à vous. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première présenté par Alex Léveillé. Bonjour Alex.
Bonjour Anne.
À la une, les élections américaines qui retiennent toutes les attentions, le rêve américain qui a toujours fait rêver notamment de nombreux Caribéens.
Et oui, qu'ils soient Guadeloupéens ou Haïtiens, certains ont déjà voté ou voteront. La Caraïbe pèsera dans ce scrutin selon l'association Contact et Recherche Caraïbes. Les explications du président du Coreca, Julien Mérillon.
Trump est la représentation de ce qu'on peut appeler le suprématisme blanc. Et de ce point de vue, il fonde ses choix politiques sur une hiérarchie des civilisations. Et de ce point de vue, les Caribéens d'origine africaine ne peuvent pas être à l'égal des États-Unis. Il l'a prouvé à plusieurs reprises dans ses relations avec la Caraïbe. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente d'un changement dans la Caraïbe. Alors bien sûr, les pays ne vont pas se prononcer pour Trump ou pour Biden. La CARICOM ne va pas se prononcer. Ils vont saluer le président élu. Mais quand on discute avec un certain nombre de ministres et autres, on sent très bien qu'ils ont envie que les choses changent.
Julien Mérillon. Et en Martinique, les politiques sortent du silence après l'annonce jeudi dernier du reconfinement. Ils parlent d'une décision non concertée et inadaptée. La Martinique, seul territoire français de la Caraïbe à avoir été reconfiné. Et pour la première secrétaire de la Fédération socialiste de Martinique, Béatrice Bellet, les décisions prises par le préfet sont brutales. Béatrice Bellet.
Alex Léveillé. Vous m'entendez, Alex ? Je ne sais pas si vous êtes encore là.
Anne ?
Oui.
Oui. Ben écoutez, on a eu un petit souci technique. Alors, je vous propose donc d'essayer d'écouter Béatrice Bellet. Bon, visiblement, on va pas pouvoir l'entendre. Néanmoins, Béatrice Bellet, donc voilà. Ben, on va entendre Béatrice Bellet tout de suite.
Il me semble qu'un certain nombre de mesures sur la Guyane, par exemple, ont très bien fonctionné, en l'occurrence, un couvre-feu qui était de 17h à 5h du matin et le week-end. Pour preuve, la Guyane, contrairement à nous, n'est ni confinée, ni sous le fait d'un couvre-feu. J'imagine que le préfet Cazel va dire qu'un certain nombre d'élus ont été invités à discuter de la solution et qu'il s'est concerté avec eux. Et moi, j'estime que sa responsabilité, eu égard aux informations qu'il a en sa possession, qu'il doit dans ces cas-là aussi, pour qu'on puisse les comprendre, mettre à la disposition de tous les Martiniquais, sa responsabilité, c'est de prendre une décision idoine et qui corresponde aux réalités des Martiniquais.
Voilà, Béatrice Bellet, qui était la première secrétaire de la Fédération socialiste de la Martinique. Elle était au micro de Claude Gracien de Martinique, la première. Et de son côté, le préfet de la Martinique, Stanislas Cazel, refute le manque de concertation avancée par les élus martiniquais. Et en Guyane, une ordonnance historique du tribunal administratif de Cayenne ordonne le rectorat de Guyane et la mairie de Cayenne à scolariser 18 enfants privés d'école. C'est Aurore Gourceau, membre du réseau Éducation sans frontières, qui nous l'a confirmé. C'était ce matin et bien sûr le premier réseau d'éducation sans frontières estime à 10 000 le nombre d'enfants privés d'éducation en Guyane. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Et bien sûr, excusez-nous pour les problèmes techniques. Voilà, très bonne journée à tous.
Merci beaucoup Alex Léveillé. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 14h10 pour une édition spéciale sur ces élections américaines à J+1 du scrutin. Très bonne journée à tous sur la Radio du Monde.